Chapitre 8. Le lignage.
Et j'espère que les matins vous parviendront en bonne santé, en même temps que la présente missive. S'il devait en être autrement, je vous prie de m'en aviser par oiseau messager, afin que je puisse vous conseiller sur les soins à leur prodiguer. Pour terminer, je me permets de vous demander, s'il vous plaît, de transmettre mes respects à Sire Chevalier Loinvoyant. Informez-le, en le saluant de ma part, que le poulain qu'il m'a confié souffre toujours d'avoir été trop brutalement séparé de sa mère. Par nature, il est ombrageux et méfiant, mais nous espérons que la douceur et la patience alliées à une main ferme effaceront ce tempérament. Il présente aussi une tendance à se montrer buté, à la grande contrariété de son dresseur, mais nous pouvons, je pense, attribuer ce trait de caractère à son ascendance paternelle. Avec de la discipline, nous parviendrons peut-être à faire de ce travers une qualité, la force de volonté. Enfin, je reste comme toujours l'humble serviteur de Monseigneur. Mes meilleurs souhaits à votre dame et à vos enfants, grand homme, et j'attends avec impatience votre prochaine venue à Castelserre pour que nous tranchions notre pari sur la ténacité de ma renarde contre celle de votre courte queue sur la piste d'un gibier. Burick, maître des écuries, Castelserre.
Extrait d'une lettre envoyée à grand homme, maître des écuries, Flétribois. Le temps d'arriver à la chaumière, l'obscurité pesait sur le pourtour de mon champ de vision. Je saisis l'épaule délicate du fou pour le guider vers la porte. Il gravit les marches en trébuchant et le loup nous suivit. Je poussai le fou vers une chaise sur laquelle il se laissa littéralement choir. Œil de Nuit se rendit tout droit dans ma chambre. Il grimpa, non sans mal, sur mon lit, se fit un nid de fortune dans les couvertures, s'y installa et sombra aussitôt dans un sommeil de plomb. Je tendis mon vif vers lui, mais le trouvai fermé à mon sondage. Je dus donc me contenter d'observer sa cage thoracique qui se soulevait et s'abaissait rythmiquement pendant que j'allumais le feu et mettais de l'eau à chauffer. Chaque étape de la préparation de la tisane, opération pourtant simple, nécessitait toute ma concentration. Le tonnerre qui roulait sous mon crâne me poussait à m'effondrer, mais je me l'interdisais. À la table, le fou, le front posé sur ses bras croisés, était l'image même du martyr. Alors que je sortais ma provision d'écorce elfique, il tourna le visage vers moi et fit une grimace en se remémorant l'amertume mordante de la noire décoction.
« Ainsi, tu en as toujours une réserve sous la main. »
Sa voix n'était qu'un croassement rauque. « Oui, » répondis-je, en mesurant la quantité d'écorce qu'il me fallait. Je la broyai ensuite dans un mortier, et dès qu'une partie en fut réduite en poudre, j'y plongeai l'index, puis portai mon doigt à ma langue. La douleur qui me vrillait les tempes s'atténua légèrement.
« Et tu t'en sers souvent ?»«
Seulement quand je ne peux pas faire autrement. » Il inspira longuement, soupira, puis à contre-cœur se leva pour aller chercher deux chopes. Une fois l'eau à ébullition, je préparai une infusion bien forte d'écorce elfique. Elle apaiserait la migraine de l'art, mais nous laisserait ensuite à la fois morose et d'une nervosité inquiète. J'avais entendu dire que les grands propriétaires de Calcède en donnaient à leurs esclaves afin d'augmenter leur énergie au travail, tout en sapant chez eux toute volonté de s'enfuir. On prétend aussi qu'on peut devenir dépendant de ce produit, mais cela ne m'était jamais arrivé. Peut-être un usage régulier entraîne-t-il une intoxication, mais pour ma part, je ne m'en suis jamais servi que ponctuellement, à titre de médication. On lui prête enfin le pouvoir d'étouffer toute capacité à artiser chez les jeunes et d'entraver le développement de l'art chez les pratiquants plus âgés. De mon point de vue, c'eût pu être une bénédiction, mais selon mon expérience, si l'écorce elfique peut émousser l'art chez quelqu'un, elle n'en atténue pas pour autant la soif dévorante d'artiser. Après l'avoir laissé longuement infuser, j'en remplis nos deux chopes et la sucrai avec du miel. Je songeais un instant me rendre au potager cueillir de la menthe, mais la distance à parcourir me découragea. Avant de prendre place en face de lui, je posai une chope devant le fou. Il la leva en une parodie d'hommage. « À nous deux, le prophète blanc et le catalyseur. » Je répétais son geste, mais modifiais ses paroles. Le fou et le Fitz. Nous entrechoquâmes nos chopes. Je pris une gorgée du breuvage. L'amertume de l'écorce elfique envahit ma bouche, puis, comme j'avalais le liquide, je sentis les muscles de ma gorge se crisper. Le fou me regarda boire, puis m'imita. Il fit la grimace, mais presque aussitôt les rides qui barraient son front s'atténuèrent. Il contempla sa chope, les sourcils froncés. « N'existe-t-il aucun moyen d'obtenir les bénéfices de cette potion sans les inconvénients ?» J'eus un sourire lugubre. Une fois, à bout de ressources, j'ai dû manger de l'écorce. J'ai eu l'impression qu'on me découpait l'intérieur des joues en lanières, et l'amertume m'a laissé la bouche et la gorge si crispées que c'est à peine si j'ai réussi à boire de l'eau pour me débarrasser du goût. « Ah !» Le four ajouta une généreuse tombée de miel dans sa tisane, prit une nouvelle lampée et fronça les sourcils de rechef. Le silence s'installa. Un vague malaise persistait entre nous que nulle excuse ne pouvait effacer, mais qu'une explication contribuerait peut-être à éclaircir. Je jetai un coup d'œil au loup endormi sur mon lit, puis tout sautait pour me dégager la gorge. Après avoir quitté le royaume des montagnes, nous sommes revenus jusqu'aux limites de Serre. Le fou leva les yeux, posa un coude sur la table, appuya son menton dans le creux de sa main et planta son regard dans le mien, m'accordant son entière attention. Il attendit patiemment que je trouve mes mots, peu empressé à venir. Lentement, je dévidai l'histoire de ce que nous avions vécu à l'époque, le loup et moi. Nous avions voyagé sans hâte. Il nous avait fallu presque une année, en suivant une route très détournée qui traversait les montagnes, puis les vastes plaines de Bauges, pour parvenir au voisinage de Corvecolle en Serre. L'automne avait lancé ses premières sommations quand nous étions arrivés à la bâtisse de pierre et de rondins, au toit surbaissé, accroché au versant d'une colline boisée. Les grands arbres persistants étaient restés impassibles devant les menaces de l'automne, mais le gel venait d'effleurer les feuilles des buissons et des petites plantes qui poussaient sur le toit moussu, en détourant certaines d'un liseré jaune, en rougissant d'autres. La large porte béait dans l'air frais de l'après-midi, et une onde presque transparente de fumée montait de la cheminée Courtaude. Il n'avait pas été nécessaire de frapper, ni de signaler notre présence à grands cris. Ceux du lignage, qui se trouvaient dans la maison, l'avaient détecté sans plus d'hésitation que nous-mêmes avions senti celle de Rolf et de Fragon. C'est donc sans manifester d'étonnement que Rolf le Noir était apparu sur le seuil. Il s'était planté devant la pénombre caverneuse de son logis et nous avait regardés en fronçant les sourcils.
« Alors, vous avez enfin compris que vous avez besoin de ce que je peux vous enseigner ?»
avait-il déclaré en guise de salut. La forte odeur d'ours qui imprégnait les alentours nous mettait mal à l'aise, Œil de Nuit et moi, mais j'avais néanmoins acquiescé de la tête. Rolf avait alors éclaté de rire, et son sourire de bienvenue avait ouvert une brèche dans la forêt de sa barbe. J'avais oublié sa taille impressionnante. Il s'était avancé d'un pas lourd et m'avait engouffré dans une étreinte amicale qui avait bien failli me broyer les côtes. Puis j'avais eu l'impression de capter la pensée qu'il avait envoyée à Aïda, l'ours qu'il avait prise comme compagnon de lien.
« Le lignage salue le lignage !» avait dit Fragon, d'un ton grave, en sortant à son tour de la maison.
L'épouse de Rolf était aussi mince et peu diserte que dans mes souvenirs. Sa bête de vif, Grésil, était perchée sur son poignet. Le faucon avait posé sur moi un œil brillant avant de s'envoler alors que Fragon s'approchait de nous. Avec un sourire et en secouant la tête, elle l'avait regardé s'éloigner. Son accueil avait eu plus de retenue que celui de Rolf, mais aussi plus de chaleur.
« Bienvenue, notre toit est le vôtre », avait-elle déclaré.
Puis, elle avait légèrement tourné la tête pour nous observer obliquement de ses yeux noirs. Un petit sourire avait illuminé ses traits alors même qu'elle baissait le visage pour le dissimuler. Puis, elle s'était placée près de Rolf, aussi frêle qu'il était massif, et comme un oiseau lisse ses plumes, elle avait écarté ses cheveux noirs et luisants de son front. « Entrez partager quelque nourriture, » nous avait-elle proposé.
« Ensuite, nous irons trouver un bon coin pour votre tanière, et nous commencerons à la bâtir, » avait ajouté Rolf, toujours direct, voire abrupt. Il jeta un coup d'œil au ciel couvert au-dessus de la forêt.
« L'hiver approche. Ce n'est pas malin d'avoir attendu si longtemps pour revenir. »
Et c'est ainsi, sans autre forme de procès, que nous étions devenus membres de la communauté de vifiers des environs de Corvecol. C'étaient des forestiers qui ne se rendaient en ville que pour se procurer ce qu'ils ne pouvaient fabriquer eux-mêmes. Ils cachaient leur magie aux villageois, car avoir le vif, c'était inviter la corde et la lame à sa porte. Rolf et Fragon ne se disaient d'ailleurs pas vifiers, qui était pour eux une épithète dont se servaient ceux qui détestaient la magie des bêtes tout en la craignant, un terme injurieux qui pouvait mener au gibet. Entre eux, ils se désignaient comme ceux du lignage, et ils plaignaient les enfants issus de leurs propres entrailles qui se révélaient incapables de former un lien d'âme et d'esprit avec un animal, tout comme les gens ordinaires s'apitoient sur un enfant né aveugle ou sourd. Les représentants du lignage n'étaient guère nombreux, à peine 5 familles disséminées à l'écart les unes des autres dans les bois environnant Corvecol. Les persécutions les avaient convaincus de ne pas se regrouper exagérément. Ils se reconnaissaient entre eux, et cela suffisait à souder leur communauté. Les membres du lignage exerçaient en général des métiers solitaires qui leur permettaient de vivre à part des gens ordinaires tout en restant assez proches pour pratiquer le troc et jouir des avantages de la ville. Ils étaient bûcherons, trappeurs, et j'en passe. Une famille s'était installée avec ses loutres sur les rives argileuses d'un cours d'eau et créait des poteries d'une exquise délicatesse. Un vieil homme, lié à un sanglier, vivait dans l'abondance grâce à l'argent que les habitants fortunés de la ville lui donnaient en échange des truffes qu'il déterrait. En somme, c'étaient des gens paisibles, des gens qui acceptaient sans mépris leur rôle de membre du monde naturel. On ne saurait en dire autant de leur attitude face à l'humanité dans son ensemble. Je percevais chez eux un fort dégoût pour ceux qui vivaient entassés dans les villes et ne voyaient dans les animaux que des serviteurs ou une simple compagnie, des bêtes dans tous les sens du terme. Ils dénigraient aussi ceux du lignage qui faisaient leur vie au milieu des gens ordinaires et niaient leur propre magie pour ce faire. On supposait souvent que je provenais d'une de ces familles et j'avais grand-peine à dissiper ce genre d'idées sans en révéler trop sur moi-même.
Et « Y es-tu parvenu ?»
s'enquit le fou à mi-voix. J'eus le sentiment gênant qu'il posait la question parce qu'il savait la réponse négative. Je soupirai. À vrai dire, j'étais constamment sur le fil du rasoir, plus que je ne l'avais jamais été au cours de mon existence. Les mois passaient et je me demandais si je n'avais pas commis une erreur en revenant dans cette communauté. Des années auparavant, lorsque je les avais rencontrés pour la première fois, Rolf et Fragon avaient appris que je m'appelais Fitz. Ils n'ignoraient rien non plus de ma haine pour Royal. De là à reconnaître en moi Fitz le bâtard au vif, il n'y avait qu'un pas, que Rolf a franchi car il a cherché un jour à en parler avec moi. Je lui ai rétorqué qu'il se trompait, qu'il s'agissait d'une coïncidence extraordinaire et malheureuse qui m'avait valu bien des ennuis. Je me suis montré si catégorique que même lui, tout buté qu'il fût de nature, a fini par se rendre compte que jamais il ne m'acculerait à me contredire. Je mentais, et il le savait, mais je lui avais fait clairement comprendre que ce message devait rester la vérité entre nous, et, de fait, le sujet n'a plus jamais été soulevé. Fragon, j'en mettrais ma main à couper, en savait autant que son époux, mais pas une fois elle n'a évoqué la question, et je pense que personne d'autre n'a fait le rapprochement. Je m'étais présenté sous le nom de Tom, et tout le monde m'appelait ainsi, même Fragon et Rolf. Je formais le vœu ardent que Fitz demeure mort et enterré.
Ainsi, ils étaient au courant.
Le fou voyait ses soupçons confirmés. Ce groupe, tout au moins, savait que Fitz, le bâtard de chevalerie, n'avait pas péri. Je haussai les épaules. À mon grand étonnement, la vieille épithète me cuisait toujours, même dans la bouche de mon ami. Pourtant, il y avait beau temps qu'elle n'aurait plus dû me toucher. Autrefois, à mes propres yeux, je n'étais que le bâtard et rien d'autre. Mais j'avais dépassé ce stade depuis des années, en prenant conscience qu'on était ce qu'on faisait de soi-même et non ce que la naissance avait décidé. Il me revint soudain en mémoire la perplexité de la sorcière des haies devant les révélations contradictoires de mes paumes. Je réfrénai mon envie de regarder mes mains et nous resservis, le fou et moi, de tisane d'écorce elfique. Puis j'allai voir dans mon garde-manger ce que je pouvais trouver pour chasser l'amertume de ma bouche. Je pris la bouteille d'eau-de-vie de bord des sables, puis la rangeai résolument et choisis à la place le reste de fromage, un peu dur, mais encore savoureux, que j'accompagnais de la moitié d'une miche de pain. Nous n'avions rien mangé depuis le petit déjeuner, et à présent que ma migraine s'atténuait, je me découvrais une faim dévorante. Le fou devait partager mon appétit car, alors que je coupais des morceaux de fromage, il en faisait autant du pain. Ma narration restait en suspens entre nous, inachevée. Je soupirais. À part nier en bloc, j'étais démuni devant ce que ces gens savaient ou non de moi. Œil de Nuit et moi avions besoin de leur science. Eux seuls étaient en mesure de nous enseigner ce qu'il nous fallait apprendre. Le fou hocha la tête, puis entassa des morceaux de fromage sur une tranche de pain dans laquelle il mordit à belles dents en attendant que je poursuive. Les mots me venaient à contre-cœur. Je n'aimais pas me rappeler cette année-là. Pourtant, j'avais beaucoup appris, non seulement par les cours que m'avait dispensé Rolf, mais aussi par le simple contact avec la communauté du lignage. Rolf n'était pas le meilleur des précepteurs. Le tempérament vif, impatient, surtout quand approchait l'heure du repas, il avait la manie d'envoyer des taloches en grondant, voire de rugir d'exaspération quand son élève se montrait trop lent. Il ne mesurait absolument pas l'étendue de mon ignorance des us et coutumes du lignage. J'imagine qu'à ses yeux, j'étais aussi mal élevé qu'un enfant qui fait exprès d'être grossier. Mes conversations, à pleine voix, avec Œil de Nuit, gâchaient la chasse des autres prédateurs du lignage. On ne m'avait jamais appris qu'il fallait annoncer sa présence par le vif quand on changeait de territoire. À l'époque où j'habitais à Castelserre, je ne savais pas qu'une telle communauté existait chez les vifiers, et surtout pas qu'elle avait ses propres règles.
« Une seconde, » dit le fou. « Tu prétends donc que les personnes douées du vif peuvent échanger des pensées, tout comme cela se passe avec l'art ?» Cette idée paraissait l'enthousiasmer.
« Non, » fis-je en secouant la tête, « ça ne fonctionne pas ainsi. » Je puis effectivement sentir si un vifier communique avec son animal de lien, s'ils font preuve d'autant de laisser-aller et d'incurie qu'Œil de Nuit et moi autrefois. Là, oui, je perçois l'usage du vif, même si je ne capte pas les pensées qu'ils échangent. C'est comme si j'entendais les harmoniques d'une corde de harpe qu'on pince. J'eus un sourire triste. C'est de cette façon que Burick, une fois qu'il eut découvert que j'avais le vif, me surveillait pour s'assurer que je ne m'y adonnais pas. Il maintenait toujours ses remparts mentaux dressés contre cette magie dont il ne se servait jamais, afin de se garder des bêtes qui tendaient leur esprit vers lui. C'est d'ailleurs pourquoi il est resté longtemps sans savoir que je l'employais, tant étaient solides ces murailles de vif, similaires aux murailles d'art que Vérité m'avait appris, par la suite, à établir autour de moi. Mais dès l'instant où il s'est rendu compte que j'avais le vif, je pense qu'il les a un peu baissés pour me tenir à l'œil. Je m'interrompis en remarquant l'air vaguement égaré du fou. Tu comprends ?
Pas complètement, quoique assez pour te suivre. Mais es-tu capable de surprendre les propos d'un animal à son compagnon de vif humain ?
Je fis non de la tête, puis faillis éclater de rire devant sa mine perplexe. Ça me paraît tellement évident que j'ai du mal à l'expliquer en termes clairs. Je réfléchis un instant. Imagine que toi et moi possédions un langage privé, que nous serions les seuls à pouvoir décoder.
C'est peut-être bien le cas, fit-il avec un sourire.
Je poursuivis sans me laisser distraire. Les pensées qu'Œil de Nuit et moi échangeons sont les nôtres, et en grande partie incompréhensibles à qui nous écouterait à l'aide du vif. Nous partageons ce langage depuis toujours, mais Rolf nous a enseigné,
à diriger nos pensées précisément l'un vers l'autre au lieu d'en faire profiter tout le voisinage. Un vivier parviendrait peut-être à sentir que nous communiquons s'il voulait vraiment nous entendre, nous et personne d'autre, mais dans l'ensemble, nos échanges se fondent à présent dans le chuchotement de vif du reste du monde. Le fou plissait le front. Ainsi, seul œil de nuit peut te parler. C'est à moi qu'il parle le plus clairement. Quelquefois, une autre créature dénuée de tout lien avec moi partage ses pensées avec moi, mais le sens en est le plus souvent difficile à saisir. C'est un peu comme essayer de s'entretenir avec un étranger dont la langue ressemble à celle qu'on parle soi-même. On agite les mains, on hausse la voix, on répète les mêmes mots en les soulignant à grands gestes, et on finit par dégager le sens général de la communication sans en percevoir aucune des finesses. Je me tue pour réfléchir. Le phénomène fonctionne mieux, je pense, si l'animal est lié à quelqu'un d'autre. J'ai parlé une fois avec l'ours de Rolf, avec un furet aussi. Et, entre œil de nuit et Burik, ça a dû être une humiliation singulière pour Burik, mais il a autorisé œil de nuit à communiquer avec lui quand je me trouvais dans les cachots de Royal. Il se comprenait de façon imparfaite, mais assez bien quand même pour nous permettre, à Burik et moi, de mettre sur pied un plan destiné à me sauver. Je restai quelques instants à errer dans ses souvenirs, puis je revins à mon récit. Rolf m'a enseigné les rudiments de la courtoisie entre gens du lignage, mais sa pédagogie n'avait rien d'aimable. Il était aussi prompt à la correction après que nous avions pris conscience de nos erreurs qu'avant. Œil de nuit le supportait mieux que moi, peut-être parce qu'il était plus sensible au sens de la hiérarchie telle qu'elle existe dans une meute. Pour ma part, j'avais plus de mal à apprendre, habitué que j'étais, je pense, à ce qu'on fasse preuve à mon égard du respect auquel a droit un homme adulte. Si j'avais connu Rolf plus jeune, j'aurais peut-être accepté plus aveuglément ses manières abruptes. Mais les expériences vécues au cours des récentes années avaient fait de moi un être violent envers quiconque se montrait agressif avec moi. Et j'ai dû le choquer la première fois que je lui ai adressé un grondement de fureur, les dents découvertes, parce qu'il m'avait tancé sans douceur à cause d'une erreur. Il est resté froid et distant pendant toute la journée, et j'ai compris que je devais me plier à ses façons si je voulais poursuivre mon apprentissage auprès de lui. J'ai donc courbé la tête, mais j'avais l'impression d'être un enfant obligé d'apprendre à se dominer, et de fait, j'ai souvent eu bien du mal à maîtriser ma colère contre lui. L'impatience que lui inspirait ma lenteur l'exaspérait autant que ma pensée humaine le rendait perplexe. Dans ses plus mauvais jours, il me rappelait Galen, le maître d'art, et il me paraissait aussi étroit d'esprit et cruel que lui quand il critiquait la mauvaise éducation que j'avais reçue parmi ceux qui n'appartenaient pas au lignage. Je n'appréciais pas du tout qu'il parle ainsi de personnes que je considérais comme ma famille. Je le savais aussi, il me jugeait comme une nature soupçonneuse et méfiante, qui ne baissait jamais complètement ses barrières devant lui. Il est vrai que je lui dissimulais bien des pans de ma personnalité. Il exigeait que je lui expose par le menu la façon dont j'avais été élevé, les souvenirs que je conservais de mes parents, la première fois où j'avais senti le lignage s'éveiller en moi, et mes réponses peu détaillées ne le satisfaisaient pas. Néanmoins, il m'était impossible de lui en dire davantage, sans trahir mon ancienne identité. D'ailleurs, le peu que je lui distillais le faisait déjà tellement bondir qu'un compte-rendu plus complet l'aurait complètement révulsé. Il approuvait Burik de m'avoir empêché de me lier jeune, mais il condamnait en même temps tous les motifs qui l'avaient poussé à agir ainsi. Le fait que j'étais parvenu à tisser un lien avec Martel, malgré la vigilance de Burik, l'avait convaincu de mon tempérament sournois. Il revenait toujours à mon enfance et à mon caractère rebelle, comme étant à l'origine de toutes mes difficultés pour trouver la magie du lignage caché en moi. Et là aussi, il me rappelait Galen et son mépris pour le bâtard qui s'évertuait à maîtriser l'art, la magie des rois. Encore une fois, chez des gens auprès desquels je croyais trouver la tolérance, je découvrais que je n'étais ni carpe ni lapin. Et, si je me plaignais à œil de nuit de sa façon de nous traiter, Rolf m'intimait d'un air menaçant l'ordre de cesser de pleurnicher sur l'épaule de mon loup et de m'appliquer à apprendre de meilleures manières.
Œil de Nuit apprenait plus facilement, et c'est souvent lui qui parvenait à me faire comprendre un concept que Rolf s'était acharné en vain à m'enfoncer dans le crâne. Le loup percevait aussi plus nettement que moi l'indignation que j'inspirais à Rolf. Mais il n'y réagissait pas bien, car le sentiment de notre professeur se fondait sur l'idée que je ne traitais pas Œil de Nuit aussi bien que mon devoir l'exigeait. Il était révolté à la pensée que j'étais presque adulte et mon compagnon à peine plus qu'un louveteau lorsque nous nous étions liés, et il me reprochait sans cesse de ne pas considérer Œil de Nuit comme mon égal, accusation que nous rejetions l'un comme l'autre. Le premier heurt à ce sujet avait eu lieu lors de la mise en place de notre logis pour l'hiver. Nous avions choisi un emplacement facile d'accès depuis la maison de Rolf et de Fragon, mais assez isolé pour éviter toute promiscuité gênante. Ce premier jour, j'avais entrepris de construire une cabane pendant qu'Œil de Nuit s'en était allé chasser. Rolf était passé et m'avait critiqué parce que j'obligeais le loup à vivre dans une habitation exclusivement humaine. Sa propre maison comprenait une grotte naturelle dans la colline et elle était conçue pour la cohabitation d'une ours et d'un homme. Il avait affirmé d'un ton péremptoire qu'Œil de Nuit devait d'abord se creuser une tanière que j'incorporerais ensuite dans ma propre demeure. Quand j'en avais discuté avec Œil de Nuit, il m'avait répondu qu'habitué aux maisons des hommes depuis son enfance, il ne voyait pas pourquoi je ne m'occuperais pas tout seul de nous bâtir un logement confortable. J'avais rapporté ces propos à Rolf, qui était entré dans une violente colère contre nous deux. Il avait déclaré à Œil de Nuit qu'il ne voyait rien de comique dans le fait d'abdiquer sa nature pour le bien-être égoïste de son compagnon. Son point de vue était si éloigné du nôtre que nous en avions été à deux doigts de quitter Corvecolle sur le champ. Mais Œil de Nuit, après réflexion, avait jugé qu'il valait mieux que nous restions pour mener à bien notre apprentissage. Nous avions donc obéi aux instructions de Rolf. Le loup avait laborieusement excavé une tanière, puis j'avais construit ma cabane autour de son entrée. Mon compagnon avait passé très peu de temps dans ce trou, préférant la chaleur de mon âtre, mais Rolf ne l'avait jamais découvert. Nombre de mes désaccords avec Rolf puisaient à la même source. À ses yeux, Œil de Nuit était trop humanisé, tandis qu'il voyait trop peu du loup en moi. Dans le même temps, il nous reprochait l'entretissage trop serré de nos esprits. L'impossibilité où il se trouvait de percevoir l'un sans l'autre. Ce qu'il nous avait appris de plus important était peut-être la façon de nous séparer. Par mon biais, il avait fait comprendre à Œil de Nuit que chacun a besoin d'intimité, de solitude, pour certains aspects de la vie, comme l'accouplement ou le deuil. Pour ma part, je n'avais jamais réussi à convaincre le loup de la nécessité d'une pareille dichotomie. Là encore, Œil de Nuit avait appris la leçon plus vite et mieux que moi. Quand il le désirait, il était capable de disparaître complètement à mes sens. Je n'aimais pas cette sensation d'être ainsi coupé de lui. J'avais l'impression de perdre la moitié de moi-même, voire davantage parfois. Cependant, nous comprenions toute la sagesse de cet apprentissage et nous nous acharnions à parfaire notre compétence dans ce domaine. Malgré tout, alors que nous nous réjouissions de nos progrès, Rolf continuait à soutenir que, même lors de nos séparations, nous partagions une unité si fondamentale que nous n'en avions même pas conscience. Un jour, j'avais haussé les épaules, considérant la question comme sans importance, et j'avais cru qu'il allait exploser.
« Et que se passera-t-il quand l'un de vous mourra? La mort nous prend tous, tôt ou tard, et il est impossible de tricher avec elle. Deux esprits ne peuvent cohabiter longtemps dans un seul corps sans que l'un prenne le dessus et l'autre devienne une ombre. C'est une abomination, quel que soit le plus fort. Voilà pourquoi les traditions du lignage repoussent avec dégoût cette avidité de vivre tout effort pour se raccrocher égoïstement à la vie. »
Rolf m'avait alors regardé d'un air encore plus sévère que d'habitude. Soupçonnait-il que j'avais déjà échappé à la mort grâce à ce genre de ruse? Non, c'était impossible. Je lui avais retourné un regard candide. Il avait froncé ses sourcils noirs d'un air inquiétant.
Quand la vie d'une créature est finie, elle est finie, et c'est pervertir toute la nature que la prolonger. Cependant, seul le lignage sait la vraie profondeur de la souffrance qu'engendre la séparation de deux âmes qui ont été unies.
C'est ainsi, et vous devez être capable de vous couper de l'autre quand l'heure viendra. » Ses sourcils broussailleux se touchaient presque. Œil de Nuit et moi avions cessé de communiquer, plongés chacun dans nos réflexions. Et Rolf lui-même avait paru finalement percevoir l'angoisse que ses propos avaient fait naître en nous. D'un ton à la fois plus bourru et plus doux, il avait repris.
« Notre coutume n'est pas cruelle, du moins pas plus que nécessaire. Il existe un moyen de conserver la mémoire de tout ce qui a été partagé, de préserver la voix de la sagesse de l'autre et l'amour de son cœur. »
Un des membres du couple pourrait donc poursuivre sa vie dans l'enveloppe de l'autre? Avais-je demandé, l'esprit embrouillé.
Rolf m'avait adressé un regard de dégoût. « Non, je viens de vous le dire, c'est une pratique que nous n'admettons pas. Quand l'heure de votre mort sonnera, vous devrez vous couper de votre compagnon pour mourir, non vous cramponner à lui comme une sangsue. »
Œil de Nuit avait poussé un petit gémissement sifflant. Il était aussi perdu que moi. Rolf avait paru reconnaître qu'il nous exposait un concept ardu, car il s'était tu pour se gratter bruyamment la tête.
« Écoutez-moi, ma mère est morte et enterrée depuis longtemps, mais je me rappelle encore le son de sa voix quand elle me chantait une berceuse, et j'entends ses mises en garde quand je m'apprêtais à faire une bêtise. Vous me suivez ?»«
Je crois, » avais-je répondu. Nous touchions à une autre pomme de discorde entre Rolf et moi. Il refusait d'accepter l'idée que je n'avais aucun souvenir de ma mère alors que j'avais passé les 6 premières années de ma vie auprès d'elle. Devant la tiédeur de ma réponse, il avait plissé les yeux.
« C'est le cas de la majorité, »
avait-il repris d'une voix forte, comme s'il pouvait me persuader par sa seule puissance sonore.
« Et c'est ce que vous pourrez conserver d'œil de nuit quand il mourra, ou lui de vous à votre mort. »
« Des souvenirs ?» avais-je fait à mi-voix en hochant la tête. La simple évocation de la disparition d'œil de nuit me perturbait.
« Non !» s'était exclamé Rolf. « Pas seulement des souvenirs. N'importe qui peut avoir des souvenirs. Ce que le membre d'un couple laisse à son compagnon est plus profond et plus riche. C'est une présence. Il n'est pas question de poursuivre sa vie dans l'esprit de l'autre, de partager des pensées, des décisions ou des expériences, mais simplement d'être là, tout près. Maintenant, vous comprenez ?
Avait-il affirmé catégoriquement. J'aurais voulu répondre par la négative, mais Œil de Nuit s'était appuyé avec insistance sur ma jambe, et je m'étais contenté d'un grognement qui pouvait passer pour un acquiescement. Pendant le mois qui avait suivi, Rolf nous avait entraînés avec obstination, nous ordonnant de nous séparer, puis nous laissant nous réunir, mais d'une façon vague et impalpable que je trouvais extrêmement insatisfaisante, au point de me convaincre que nous nous y prenions mal, que ce que nous éprouvions n'avait rien à voir avec le bien-être et la présence dont avait parlé Rolf. À ma grande surprise, quand je lui avais fait part de mes doutes, il s'était déclaré d'accord avec moi, mais il avait poursuivi en affirmant que nous étions encore beaucoup trop mêlés l'un à l'autre, que le loup et moi devions nous séparer davantage. Nous l'avions écouté, nous nous étions exercés sans feindre, mais nous nous étions réservés le droit d'agir comme bon nous semblerait quand la mort viendrait prendre l'un de nous. Nous n'avions jamais exprimé tout haut notre résolution, mais je suis sûr que Rolf l'avait perçu, car il s'était acharné à nous démontrer que nos façons de vivre étaient erronées, et les exemples qu'il nous avait montrés étaient de véritables crève-cœur. Par incurie, une famille du lignage avait laissé des hirondelles faire leur nid sous les chéneaux de leur maison. Là, leur fils, nouveau-né, pouvait non seulement entendre leur gazouillis, mais aussi observer leurs allées et venues. Et il n'avait jamais plus cessé, alors même qu'il avait grandi et approchait de la trentaine. À Bourg-de-Castelserre, on l'eût qualifié de simple d'esprit, et on ne se fut pas trompé, mais quand Rolf nous avait ordonné de le sonder de façon plus précise à l'aide du vif, la raison de son état nous était apparue clairement. Le malheureux était lié, non à une seule hirondelle, mais à toute la nichée. Dans sa tête, il était un oiseau, et quand il barbotait dans les flaques, agitait les mains en tous sens et cherchait à gober les insectes, c'était sous l'action de son esprit d'oiseau.
« Voilà ce qui arrive lorsqu'on se lit trop jeune, »
avait conclu Rolf d'un air sombre. Il avait soumis un autre couple à notre observation, mais de loin. Un matin, de bonne heure, alors que la brume s'étendait encore lourdement dans les vallons, nous nous étions retrouvés couchés à plat ventre au bord d'une combe, silencieux comme des souches, aussi bien en paroles qu'en pensées. Dans le brouillard, une biche blanche s'approchait à pas légers d'une mare, se déplaçant non avec la prudence propre à son espèce, mais avec la grâce languide d'une femme, et j'avais songé que sa compagne devait se trouver non loin, dissimulée dans la brume. La biche avait baissé le museau jusqu'au niveau de l'eau et s'était mise à boire à longues goulées fraîches. Puis, elle avait lentement relevé la tête et tourné ses grandes oreilles vers l'avant. Son vif m'avait effleuré, interrogateur. J'avais scié, m'efforçant de me concentrer sur elle, tandis qu'un petit gémissement d'incompréhension échappait au loup. Rolf s'était relevé brusquement sans chercher à se cacher et avait refusé le contact avec froideur. J'avais senti son dégoût alors qu'il s'éloignait à grandes enjambées, mais nous étions restés, les yeux braqués sur la biche. Peut-être avait-elle perçu notre ambivalence, car elle nous avait rendu notre regard avec une hardiesse très atypique de son espèce. Une étrange sensation de vertige s'était emparée de moi, et j'avais plissé les yeux pour tâcher de distinguer dans la silhouette de l'animal les deux êtres que, mon vif me l'assurait, j'avais devant moi. À l'époque où je faisais mon apprentissage auprès d'Imbre, mon mentor s'était servi de différents exercices pour m'enseigner à voir ce qui se trouvait vraiment sous mes yeux, et non ce à quoi mon esprit s'attendait. La plupart étaient simples. Observer un emmêlement de cordes et déterminer s'il s'agissait d'un nœud complexe ou d'un enchevêtrement dû au hasard. Regarder des gants éparpillés et repérer ceux qui étaient dépareillés. Il m'avait enseigné une technique plus curieuse qui consistait à écrire le nom d'une couleur en utilisant une encre d'une autre teinte, par exemple rouge en bleu vif. Lire tout haut une liste de noms de couleurs ainsi rédigées sans se tromper, en disant ce qui était écrit et non les teintes employées, exigeait plus de concentration que je ne l'aurais cru. Je m'étais donc frotté les yeux, j'avais regardé à nouveau et n'avais vu qu'une biche. La femme n'était qu'une fabrication de mon cerveau fondée sur ce qu'annonçait mon vif. Physiquement, elle n'était pas là. Sa présence dans la biche faussait ma perception de l'animal. L'anomalie de la situation m'avait donné la chair de poule et c'est l'esprit confus qu'Œil de Nuit et moi avions rattrapé Rolf qui continuait de s'éloigner à grands pas de la combe abritée et de son étang paisible. Au bout de quelque temps, je lui avais demandé. Qu'est-ce que c'était ? Il avait pilé net et s'était tourné d'un bloc vers moi, insulté par mon ignorance.
Qu'est-ce que c'était ? C'était vous deux d'ici une dizaine d'années, si vous ne changez pas vos façons d'être. Vous avez vu ses yeux ? Ce n'est pas une biche qu'il y avait dans ce vallon, mais une femme dans la peau d'une biche. Je voulais que vous le voyiez vous-même, que vous vous rendiez compte de l'abomination que c'est, de la perversion absolue de ce qui aurait dû être une confiance mutuelle.
Je l'avais regardé sans rien dire, attendant qu'il poursuive. Il avait dû espérer que j'acquiescerais à son jugement, car il avait émis un grondement grave.
« C'est Delaina que vous avez vue. Elle est tombée dans l'étang gelé des Robles et s'y est noyée il y a deux hivers. Elle aurait dû mourir à ce moment-là, mais non. Elle s'est accrochée à Parella. La biche n'a pas eu le courage, ou bien la force de l'en empêcher, et vous avez été témoin du résultat. Une biche avec l'esprit et le cœur d'une femme, et Parella privée de toute pensée propre ou presque. C'est absolument contre nature. » Ce sont des gens comme Delaina qui sont à la racine de tous les racontars malveillants de ceux qui n'appartiennent pas au lignage. C'est elle qui les incite à nous pendre et à nous brûler au-dessus de l'eau. Elle n'a que ce qu'elle mérite.
J'avais détourné le regard, gêné par sa véhémence. J'avais frôlé de trop près le même sort pour croire que quiconque pût le mériter. Mon corps glacé était resté des jours dans ma tombe, tandis que je partageais la chair et la vie d'Œil de Nuit. J'avais alors eu la certitude que Rolf en avait le soupçon, et je m'étais demandé, s'il me méprisait à ce point, pourquoi il s'était fait mon professeur. Comme s'il avait capté un écho de mes pensées, il avait ajouté d'un ton brusque.
« Quelqu'un qui n'a pas d'éducation peut commettre une mauvaise action, mais une fois qu'il a appris, il n'a aucune excuse s'il recommence. Aucune. »
Là-dessus, il avait repris sa route. et nous l'avions suivi, œil de nuit avec la queue raidie à l'horizontale. Tout en cheminant à pas lourds, Rolf marmonnait dans sa barbe.
« C'est l'égoïsme de Delaina qui les a détruites toutes les deux. Parella n'a plus d'existence à elle, ni mâle, ni fan, et quand elle mourra, elle cessera tout simplement d'exister, et Delaina avec elle. » Delaina n'a pas pu accepter sa mort en tant que femme, mais elle n'accepte pas non plus sa vie en tant que biche. Quand le cerf brame, elle empêche Parella de lui répondre. Mais elle doit s'imaginer faire preuve de fidélité envers son mari ou une stupidité du même tonneau. Quand Parella mourra, Delaina, en même temps qu'elle, qu'auront-elles gagné, à part quelques années d'une existence insatisfaisante pour l'une comme pour l'autre?
Je ne pouvais rien objecter. Je frissonnais encore de répulsion au souvenir de ce que mon vif m'avait montré. Et pourtant, je dus lutter avec moi-même pour faire cet aveu au fou. Et pourtant, au fond de moi, je me demandais si quelqu'un, en dehors de cette femme et de cette biche, était vraiment en mesure de saisir toute la portée de la décision qu'elles avaient prise. Qui sait si, malgré les apparences, elles ne trouvaient pas leur situation juste et normale. J'interrompis un instant ma narration. Le souvenir de ces deux êtres mêlés me bouleversait toujours. Sibiric n'avait pas réussi à faire sortir mon esprit du loup pour le réintégrer dans mon corps, était-ce le sort qui nous aurait attendus? Si le fou n'avait pas été présent ce jour-d'hui, Œil de Nuit et moi habiterions-nous la même enveloppe charnelle en ce moment? Je ne jugeais pas utile d'exprimer tout haut mes interrogations car je le savais, le fou avait déjà dû parvenir seul à ces questions. Je m'éclaircis la gorge. Nous avons beaucoup appris auprès de Rolf pendant cette année-là, mais tout en acquérant les techniques de notre magie commune, Œil de Nuit et moi avons refusé de nous soumettre à toutes les coutumes du lignage. J'estimais que nous avions le droit d'en connaître les secrets à cause de ce que nous étions, mais je ne me sentais nullement tenu d'accepter les règles que Rolf cherchait à nous imposer. Il aurait peut-être été plus judicieux de dissimuler mon point de vue, mais j'en avais plus qu'assez des faux-semblants et des épaisseurs de mensonges dont il fallait les protéger. Je suis donc resté à l'écart de ce monde, et Œil de Nuit a consenti à m'imiter. Nous avons donc observé cette communauté du lignage sans jamais nous intégrer complètement à la vie de ses membres.
Et Œil de Nuit s'en est tenu à l'écart lui aussi?
Le ton du fou n'avait rien d'agressif, et je tâchais de me convaincre que cela ne scellait aucun reproche, aucun questionnement quant à savoir si je n'avais pas contraint le loup pour des motifs purement égoïstes. Il partageait mon sentiment. Ces gens avaient le devoir de nous enseigner leur science de la magie que nous portions en nous, mais quand Rolf nous l'agitait devant le nez comme une carotte, comme une récompense à laquelle nous n'aurions droit qu'après avoir accepté le joug de ses règles, ma foi, ça, c'est une forme d'exclusion, mon ami. Je jetai un regard au loup grisonnant roulé en boule dans mes couvertures. Profondément endormi, il payait le prix de mon intervention sur son organisme.
Personne ne vous a donc simplement tendu une main amicale?
La question du fou me ramena à mon récit. Je réfléchis. Si, Fragon a essayé. Je pense qu'elle avait pitié de moi. Elle possédait une nature farouche et solitaire, tout comme moi. Grésil et sa femelle s'étaient installés dans un grand arbre au-dessus de la maison de Rolf, sur le versant de la colline, et Fragon avait coutume de passer des heures entières juchées sur une plateforme bâtie non loin en dessous du nid de Grésil. Elle ne s'est jamais montrée bavarde avec moi, mais elle m'a témoigné sa gentillesse par de nombreux petits gestes, parmi lesquels le don d'un matelas de plumes, bénéfice des chasses de Grésil. Je souris. Et elle m'a montré quantité de petites recettes pour vivre seule que je n'avais jamais apprises à Castelserre, où je n'avais pas à m'occuper de subvenir à mes propres besoins. Il y a un réel plaisir à préparer du pain au levain. En outre, elle m'a enseigné à cuisiner d'autres plats que le gruau et les ragoûts de Buric. Et aussi, mes vêtements étaient élimés en haillons à mon arrivée. Elle me les a demandés, non pour les ravauder, mais pour m'apprendre à les entretenir moi-même. Assis près de sa cheminée, je me suis exercé à raccommoder des chaussettes sans faire de mode de fil, à retourner mes ourlets avant qu'ils soient effilochés au-delà de tout espoir de réparation. Je secouais la tête souriant à ses souvenirs. « Et, bien entendu, Rolf était ravi de vous voir vous tenir mutuellement compagnie si souvent et si amicalement. » Au ton qu'il avait employé, le fou posait en réalité une autre question. Avais-je donné à Rolf un motif de jalousie et de rancœur? J'avalais ce qui restait de tisane tiède et me laissais aller contre le dossier de ma chaise. La morosité familière qu'induisait l'écorce elfique commençait à m'envahir. Il n'y a jamais rien eu entre nous, fou. Moque-toi si tu veux, mais j'avais plutôt l'impression d'avoir trouvé une mère. Elle n'était pourtant pas tellement plus âgée que moi, mais elle avait une douceur, une tolérance, une bienveillance toute maternelle. Cependant, je m'éclaircis la gorge, tu as raison, Rolf était jaloux, même s'il ne l'a jamais reconnu expressément. Quand il rentrait chez lui, arrivant du froid, il tombait sur Œil de Nuit vautré devant son âtre, et moi-même, les mains encombrées de fils, occupé à réaliser un ouvrage de couture que m'avait confié Fragon. Et il lui trouvait aussitôt une tâche quelconque à effectuer pour lui. Il ne la traitait pas mal, non, mais il s'arrangeait toujours pour me faire comprendre quelle était sa femme. Fragon n'a jamais abordé le sujet avec moi, mais je crois que ce n'est pas par hasard qu'elle s'occupait de moi. Elle voulait rappeler à Rolf que malgré toutes les années qu'ils avaient passées ensemble, elle conservait une vie et une volonté propre. Toutefois, elle n'a jamais rien fait qui puisse embraser la jalousie de son compagnon. De fait, avant la fin de l'hiver, elle avait tenté de m'intégrer à la communauté du lignage. Sur son invitation, des amis passaient chez elle et elle faisait en sorte de me présenter à chacun d'eux. Plusieurs familles avaient des filles en âge de se marier et c'était de toutes les plus souvent présentes quand j'étais moi-même invité à manger chez Rolf et Fragon. Quand ils recevaient, Rolf buvait, riait et devenait démonstratif. Bref, il appréciait visiblement ces moments de réjouissance. Il déclarait souvent que c'était l'hiver le plus joyeux qu'il eût connu depuis bien des années, ce dont je déduisais que Fragon n'avait pas l'habitude d'ouvrir sa porte à tant d'hôtes. Elle n'a cependant jamais fait preuve d'une ostentation gênante dans sa recherche d'une compagne pour moi. À l'évidence, elle considérait Vita comme la meilleure candidate. Une femme à peine plus âgée que moi, de quelques années, grande, à la chevelure noire et aux yeux d'un bleu profond. Son compagnon de vif était un corbeau, aussi gai et malicieux qu'elle. Nous sommes devenus bons camarades, mais mon cœur n'était pas mûr pour aller au-delà, et mon manque d'ardeur froissait davantage le père de Vita que la jeune fille elle-même, si j'en juge par quelques remarques appuyées qu'il a faites selon lesquelles il ne fallait pas faire attendre trop longtemps une femme. Pour ma part, je sentais que trouver un compagnon intéressait Vita beaucoup moins que ses parents ne le croyaient, et nous sommes restés amis pendant tout le printemps jusqu'au début de l'été, moment où Oli, le père de Vita, a précipité mon départ de Corvecol en rapportant certains propos à Rolf. Il avait sommé sa fille de cesser de me voir ou bien de me presser de déclarer mes intentions. En réponse, elle lui avait exposé avec force ses propres intentions, qui étaient de n'épouser personne qui ne lui convienne pas. Et surtout pas, selon ses propres termes, un homme beaucoup plus jeune qu'elle, tant d'âge que de cœur. Elle avait poursuivi en accusant son père de vouloir, sous prétexte d'avoir des petits-enfants, la pousser dans le lit de quelqu'un qui n'avait pas été élevé parmi ceux du lignage et dont le sang charriait la souillure des loin voyants. Ces paroles sont parvenues à mes oreilles, non par le biais de Rolf, mais de Fragon. Elle me les a répétées à mi-voix, les yeux baissés comme si elle avait honte de colporter de tels ragots. Mais quand elle les a relevés avec une expression très douce et qu'elle a attendu calmement ma dénégation, les mensonges que j'avais préparés sont morts sur mes lèvres. Je l'ai remerciée de m'avoir informé des sentiments de Vita en ajoutant qu'elle m'avait donné matière à réflexion. Rolf n'était pas là. J'étais venu emprunter son merlin car c'est en été qu'on fait les réserves de bois pour l'hiver. Mais je suis reparti les mains vides. Œil de Nuit et moi avions compris que nous ne passerions pas la saison froide parmi ceux du lignage. Le temps que la lune se montre, nous avions de nouveau laissé le duché de Serre derrière nous. J'espérais qu'on mettrait notre brusque départ sur le compte de la réaction d'un amoureux éconduit, plutôt que sur celle du bâtard fuyant ceux qui l'avaient démasqué. Le silence tomba entre nous. Le fou savait que je lui avais avoué ma peur la plus tenace. Le lignage connaissait mon identité, mon nom, et cela lui donnait barre sur moi. Ce que je n'aurais jamais confessé à Astérie, je l'exposais clairement à mon ami. Il était dangereux que des gens qui ne me portaient pas dans leur cœur détiennent un tel pouvoir sur moi. Mais je n'y pouvais rien. Je vivais seul, loin de ceux du lignage, mais il ne se passait pas un instant sans que je fusse plus ou moins conscient de ma vulnérabilité. Je songeais à raconter au fou l'histoire qu'Astérie m'avait rapportée à propos du ménestrel et de sa prestation à la fête du printemps. Non, plus tard, plus tard. On eût dit que j'essayais de me cacher derrière ma main. Je me sentais tout à coup morose et amère. Je levai les yeux et vis le regard du fou braqué sur moi.
« C'est l'écorce elfique ?»
fit-il à mi-voix. « Ouais, l'écorce elfique. » répétai-je d'un ton revêche, sans parvenir à me convaincre que le désespoir qui m'avait envahi était uniquement dû aux effets secondaires de la tisane. L'absence de but dans ma vie n'y avait-elle pas aussi sa part? Le fou se leva et se mit à arpenter la pièce, incapable de tenir en place. Deux fois, il alla de la porte à la fenêtre, en passant par la cheminée, puis il se dirigea vers le buffet pour y prendre l'eau-de-vie et deux gobelets qu'il posa sur la table. C'était une idée qui en valait une autre. Il nous servit. Je me rappelle que nous bûmes jusque tard dans la nuit et que le fou se chargea de la conversation. Il essaya, je pense, de se montrer spirituel pour me tirer de ma morosité, mais son humeur paraissait aussi triste que la mienne. À partir de certaines anecdotes sur les marchands de Terrilville, il se lança dans une histoire farfelue où des serpents de mer s'enfermaient dans des cocons pour en ressortir sous forme de dragon. Quand je lui demandais comment il se faisait que je n'avais jamais vu aucun de ces dragons, il secoua la tête.
« Leur croissance a été interrompue, » dit-il d'un ton apitoyé.
« Ils ont émergé de leur chrysalide à la fin du printemps, chétifs et faibles, comme des chatons nés trop tôt. Il n'est pas impossible qu'ils grandissent pour atteindre un jour leur pleine gloire, mais pour l'instant, ces malheureuses créatures ont honte de leur débilité. Elles ne sont même pas capables de chasser pour se nourrir seules. » Je garde le souvenir net du remords que je lus dans les yeux agrandis du fou. Son regard doré me transperça.
« Se peut-il que je sois responsable ?»
fit-il d'une voix douce, sans que je voie de rapport entre sa question et son récit.
« Me suis-je attaché à la mauvaise personne ?»
Là-dessus, il remplit son verre et l'avala avec une détermination qui m'évoqua Burick dans ses humeurs les plus noires. Je n'ai pas souvenir d'être allé me coucher ce soir-là, mais je me vois en revanche étendu sur mon lit, le bras jeté sur le loup endormi, observant le fou d'un œil somnolent. Il avait tiré de son paquetage un drôle de petit instrument à trois cordes seulement. Assis devant le feu, il en jouait distraitement, tirant des accords dissonants qu'il atténuait en les accompagnant d'une chanson triste, écrite dans une langue que je n'avais jamais entendue. Je posai mes doigts sur mon poignet et je sentis sa présence dans l'obscurité. Il ne se tourna pas vers moi, mais un courant de conscience fit trembler l'air entre nous. Sa voix me parvint plus nettement et je compris qu'il chantait le chant d'un exilé qui se languit de sa terre natale.